Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour Histoire de Savoir, un magazine de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles, au micro et à la technique Adeline Wickmans. Aujourd'hui, nous recevons Tabata Fabry, diplômée d'histoire ici à l'ULB, actuellement doctorante. Son doctorat, elle le fait en France. Et je l'ai rencontrée eh bien, parce qu'il y a de cela plusieurs semaines déjà, elle avait fait une conférence au Centre d'Histoire et de Sociologie des Gauches, conférence portant sur l'espéranto et le lien entre l'espéranto, et la pensée gauchiste.
Saluton, mi nomigas Tabata Fabry, mi exas doctorija studento, kai mi laboras pri la laborista esperantista movado. Bonjour, je m'appelle Tabata Fabry, je suis doctorante et je travaille sur le mouvement espérantiste ouvrier.
Tabata Fabry, alors l'espéranto, vous êtes tombée dedans il y a déjà quelques années, parce que votre thèse de doctorat, elle vient de démarrer, mais en fait, c'est déjà le sujet de votre mémoire avant ça.
Oui, en effet, c'était le sujet de mon mémoire, donc je suis tombée dedans en 2022, un peu par hasard, un peu en cherchant par curiosité. J'en avais déjà entendu parler longtemps avant cela, et puis en cherchant un sujet de mémoire, eh bien on se promène sur Wikipédia, on se promène dans les livres, et j'ai trouvé de super belles histoires, des super belles anecdotes, et j'avais envie de creuser ça et de me lancer dans un mémoire sur l'espéranto, et puis ça m'a énormément plu et j'ai continué, et maintenant j'ai plus envie d'arrêter. Je me rends compte que ce sujet est plein de petits détails passionnants et qu'il y a beaucoup de choses à raconter là-dessus.
Alors, pour que ce soit clair pour les auditeurs, votre mémoire, ce n'était pas du tout un mémoire en linguistique de formation, vous êtes historienne.
Oui, en effet, donc moi je suis historienne, donc quand je dis que je travaille sur l'espéranto, je ne travaille pas sur la langue en elle-même, mais je travaille sur l'histoire. Alors je dis souvent que je travaille sur l'histoire de l'espéranto, mais c'est un peu une exagération, je travaille sur l'histoire des gens qui parlent l'espéranto, l'histoire du mouvement des gens qui parlent l'espéranto. C'est un peu plus simple de dire que je travaille sur l'histoire d'espéranto, mais donc vraiment c'est comment les gens qui parlent espéranto ont développé certaines idéologies, se sont organisés, ont repris les idées, je vais en parler plus tard, mais de la création de l'espéranto, de toutes les idées que porte cette langue, et pas tellement sur comment est-ce qu'ils ont appris la langue et comment est-ce que la langue est parlée, mais vraiment quelles idées ils partagent entre eux.
Alors commençons peut-être par le commencement. Tabata Fabry, l'espéranto, c'est né quand et c'est quoi ?
Alors l'espéranto, c'est une langue internationale auxiliaire et planifiée. Donc d'abord, c'est une langue planifiée. Donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un, c'est Louis Lazar Zamenhof qui l'a créé. Louis Lazar Zamenhof, c'était un juif qui habitait d'abord à Białystok puis à Varsovie, donc dans la Pologne occupée par l'Empire russe. Ce sont deux villes où se côtoyaient énormément de communautés parlant chacune des langues différentes. Et Zamenhof a observé que se créaient beaucoup de conflits entre ces gens qui parlaient des langues différentes. Et il s'est dit que peut-être que s'ils parlaient tous une langue commune, ils arrêteraient de se disputer. Et donc, il a créé cette langue. Et donc, on peut parler d'une langue artificielle, mais on peut aussi parler d'une langue planifiée, parce qu'elle a été planifiée par quelqu'un. Mais elle est aussi internationale, qu'elle n'a pas pour but de remplacer la langue du quotidien, elle a pour but d'être utilisée dans un usage international et auxiliaire, parce que c'est pas une langue qui a pour but qu'on l'utilise au quotidien et qu'on la remplace, mais vraiment auxiliaire entre deux personnes qui ne parlent aucune autre langue commune. C'est par exemple moi qui parle le français, me rend en Allemagne pour parler avec un Allemand, et que je ne parle pas allemand, et que l'allemand en face de moi ne parle pas le français, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler l'anglais, le plus probablement. Eh bien, l'espéranto a été inventé avant que l'anglais ait cette position dominante, et l'idée, c'est que ça devienne la langue qu'on utilise dans ce contexte international, mais bien sûr, moi, je continue à parler français à la maison, chez moi, dans un pays francophone, tandis que l'allemand continue de parler allemand dans sa vie de tous les jours tant qu'il ne rencontre pas d'autres personnes qui ne parlent pas l'allemand.
Ok. C'est une langue compliquée à apprendre ?
C'est très facile. C'est très 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 facile. Je dirais même que pour un francophone, c'est la langue la plus facile à apprendre. On compte que ça peut être appris environ 10 fois plus rapidement que l'anglais pour un francophone. Pourquoi est-ce que c'est aussi facile? Du fait que ça soit une langue planifiée, artificielle, on a pu la créer avec des règles logiques, simples et régulières. Donc il n'y a pas d'irrégularité. En espéranto, il y a 16 règles de grammaire. Je ne vais pas le faire ici, mais je pourrais vous expliquer toute la grammaire en 5 minutes. Et une fois qu'on a appris cette grammaire, c'est très facile et d'utiliser vraiment la langue au quotidien. Et après, pour l'autre partie de la langue, le vocabulaire, c'est également très facile. Déjà, bon, on est très avantagé en tant qu'Européen parce que plus de 50% du vocabulaire est commun avec les langues romanes, 30 à 40% avec les langues germaniques. Et donc, quand on est belge et qu'on parle le français, un peu néerlandais, un peu d'anglais, on est très avantagé pour le vocabulaire. Mais aussi parce qu'il y a un système de préfixes et de suffixes qui permettent de créer des espèces de Lego avec des mots, d'ajouter des préfixes. Par exemple, on a le préfixe mal qui veut dire le contraire. On va dire par exemple varma pour quelque chose de chaud et malvarma pour quelque chose de froid. Malgranda pour quelque chose de grand, malgranda pour quelque chose de petit. Et donc ainsi, on a automatiquement beaucoup moins de vocabulaire à retenir parce qu'avec une liste de radicaux assez limitée, on peut exprimer un nombre de choses assez impressionnant.
Alors, on se rejette en arrière 2022, le choix d'un sujet de mémoire. Et vous vous dites, ah bah tiens, je vais travailler sur l'espéranto. La première démarche, ça a été quoi? Je dois l'apprendre pour pouvoir travailler dessus?
Oui, alors, donc en fait, j'ai commencé à découvrir l'espéranto d'abord en découvrant un mémoire, le mémoire de Jacques Gilaine sur Eugène Gaspard Marin et la communauté anarchiste L'Expérience, qui était une communauté anarchiste espérantiste, de me rendre compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui avait été dit sur le côté espérantiste de cette communauté. Et donc j'ai voulu me lancer sur ce sujet, donc il y a plusieurs choses qui se sont faites en parallèle. D'abord, bon, j'avais l'idée de l'espéranto, je m'étais dit bon, l'espéranto en Belgique au XXe siècle, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Par exemple, une de mes idées c'était les congrès universels. Il y a plusieurs congrès, donc il y a un congrès universel qui est organisé par an depuis 1905, qui réunit plusieurs milliers d'espérantistes à chaque fois, et il y en a eu 3 en Belgique, c'était une de mes idées. Mais au final, j'ai décidé de m'orienter vers les mouvements espérantistes de gauche. Et donc ça, c'était une des décisions que j'ai prises. Mais en parallèle, il y a eu évidemment apprendre la langue. Donc ça a été, bien sûr, une de mes priorités, parce que la plupart des documents sur l'espéranto sont écrits en espéranto. Et donc, il était assez important de l'apprendre rapidement. Et alors, à la base, je voulais vraiment garder ma posture d'étudiante en histoire et simplement apprendre la langue. Et en fait, j'ai trouvé des cours d'espéranto à Bruxelles, à l'Esperantista Bruxelles Agrupo, un groupe d'espéranto que je rejoins encore tous les mardis et qui m'a permis de rencontrer d'autres espérantistes et de me rendre compte vraiment qu'il y avait encore une communauté vivante. À la base, je voulais faire de l'histoire et je me suis rendu compte que cette communauté vivante était très attrayante aussi, qu'il y a encore plusieurs congrès qui sont organisés chaque année, qu'il y a quelque chose de magique avec l'espéranto, c'est que, un peu comme les autres langues diasporiques, quand on rencontre quelqu'un qui parle espéranto, c'est une raison suffisante pour avoir envie de parler ensemble. On n'a pas vraiment ça avec le français, l'anglais ou le néerlandais, on va pas entendre quelqu'un qui parle français dans la rue et aller lui dire « Allez, viens, on va parler ensemble, on va discuter pendant 3 heures juste parce qu'on parle tous les deux français, ça marche pas. » Avec l'espéranto, il y a assez peu de gens qui parlent espéranto pour qu'il y ait vraiment cet effet communauté qui se crée et des personnes qui se réunissent avec, à la base, comme seul point commun, qu'ils ont envie d'apprendre ou qu'ils ont envie de parler l'espéranto. Bien sûr, après, l'espéranto porte plusieurs valeurs, plusieurs idées. Et quand on parle espéranto, souvent on partage également d'autres traits communs, d'autres idées et valeurs communes. Et donc, oui, j'ai appris l'espéranto et là-dedans, j'ai commencé à participer au congrès, à participer au groupe et à m'organiser dans le mouvement, à avoir envie de partager cette passion commune avec d'autres personnes. Alors là, des personnes de tout âge, de tout horizon géographique, de toute profession, vraiment des personnes très différentes chacune et en même temps avec... avec une idée commune et des valeurs communes.
Et donc, ça veut dire, alors, très concrètement, bah, un mémoire, en général, on travaille dessus pendant bah, un an et demi, quelque chose comme ça. Donc, un an et demi pour apprendre une langue et pour pouvoir mener des recherches sur cette langue. Effectivement, ça a été vite.
Eh bien, en effet, ça a été vite. Et même, en fait, je n'avais pas besoin d'un an et demi parce que donc, j'ai commencé à prendre des cours en fin janvier, début février 2023, et mi-mai, j'ai participé à un week-end où j'ai parlé tout le week-end en espéranto, et en fait, c'est pas être rapide, c'est juste la vitesse normale d'apprentissage de cette langue pour quelqu'un qui va un cours 2 heures par semaine et qui travaille dessus 15 minutes par jour. C'est vraiment aussi rapide que ça, et j'ai plusieurs autres amis qui, depuis, ont fait l'expérience, et c'est vraiment la vitesse... tout à fait classique, ça va très très vite d'apprendre l'espéranto.
Thank you.
Alors, j'entends bien, évidemment, Tabata Fabri, vous disiez, c'est une langue qui a été créée, donc, pas d'exception, des règles de grammaire très simples, un vocabulaire qui, pour nous francophones, est plus facile. Alors, dans votre cas, effectivement, il y avait une raison supplémentaire de ne pas tarder à l'apprendre, puisqu'il y avait ce mémoire à faire. Mais alors, les autres, tous les autres que vous avez croisés dans vos cours, qu'est-ce qui les motivait? Qu'est-ce qui les a poussés à apprendre l'espéranto?
Alors, il y a plusieurs types d'espérantistes assez courants. Il y a le polyglotte, celui qui parle 8 langues, qui a grandi en en parlant 3, qui en parle 8 et qui en apprend une nouvelle tous les 6 mois. Et donc, dans ces passionnés de langue, évidemment, il y en a beaucoup qui parlent l'espéranto, mais aussi 5-6 autres langues. Mais il y en a aussi, qui apprennent l'espéranto par des envies, par non-envie d'apprendre d'autres langues. Donc plusieurs personnes qui ont envie de voyager, qui ont du mal à s'accrocher à l'anglais, qui ont du mal à se dire qu'ils vont apprendre une langue par pays dans lequel ils vont voyager et apprennent l'espéranto pour voyager. Pourquoi apprendre l'espéranto pour voyager? Donc j'ai parlé de cet effet communauté qui permet d'avoir une raison suffisante de se parler quand on voyage, mais c'est vraiment organisé. Par exemple, aujourd'hui, la plupart des gens connaissent le couchsurfing, le fait d'aller d'aller dormir chez quelqu'un gratuitement sur un canapé dans une chambre de disponible. Eh bien, depuis plusieurs dizaines d'années, déjà avant Internet, il y avait déjà ce système dans le monde espérantiste avec passeport à cerveau, donc un service qui permet d'aller loger chez d'autres espérantistes. Et ainsi, il y a énormément de gens qui partent voyager à travers le monde, qui partent voyager, rencontrer d'autres espérantistes. Un bon exemple, c'est Lucien Perrer, qui était un espérantiste ouvrier des années 1920, qui est parti en vélo de France, qui a traversé la Russie en roulant. Donc il avait un vélo qui... si vous allez voir des photos, c'est très marrant. Il avait un vélo qui se mettait sur les rails. Et alors, il a roulé le long du Transsibérien et il est arrivé jusqu'au Japon et en Indonésie, toujours en rencontrant des espérantistes et en voyageant grâce à l'espéranto. Mais plus récemment, évidemment, il y a encore beaucoup de gens qui se permettent de voyager à travers l'espéranto. On a des congrès qui réunissent des centaines, voire des milliers de personnes chaque année dans une ville bien spécifique. Et alors, ça permet de se faire des amis dans le monde entier. Et moi-même, encore, quand je voyage, souvent, c'est l'occasion d'aller re-rencontrer l'une ou l'autre amie dans une ville en particulier. Il y a 10 jours, par exemple, j'étais à Istanbul et j'ai écrit sur le groupe Esperanto Turquie à qui est à Istanbul et veut se rencontrer. Et c'est comme ça qu'on arrive à rencontrer des gens en voyage.
Vous n'imaginiez pas ça du tout quand vous vous êtes dit « tu veux faire mon mémoire sur l'espéranto ?»
Absolument pas. Donc moi, j'étais vraiment partie d'une démarche historienne. J'étais curieuse de la question. Je m'attendais à lire des archives et des livres. Et puis, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça marche et à parler espéranto avec d'autres personnes. Oui, vraiment.
Alors, quand vous dites, Tabata Fabri, vous dites « il y a... » on peut l'utiliser, cette langue, pour voyager partout dans le monde. Tout à l'heure, vous disiez, en termes de vocabulaire, 50% c'est plutôt inspiré des langues romanes, 40% des langues germaniques. Et pourtant, il y a des gens en Russie, au Japon, en Chine, qui parlent espéranto.
Oui, tout à fait. C'est vraiment répandu à travers le monde entier. Alors, il est vrai, c'est très vrai que c'est beaucoup plus facile d'apprendre l'espéranto pour un francophone, un germanophone, un anglophone. Cependant, même pour quelqu'un qui a comme langue maternelle le chinois ou le japonais, ça reste plus facile d'apprendre l'espéranto que n'importe quelle autre langue européenne. Donc, certes, on est avantagé par la connaissance du vocabulaire, mais ça reste une langue très facile à apprendre, peu importe sa langue maternelle. Et ça reste on a des communautés très développées en Chine, au Japon, en Corée. Le dernier congrès des jeunes, par exemple, était en Indonésie. Et en effet, ça marche très très bien dans l'ensemble du monde, peu importe la langue maternelle.
Alors avant de partir sur le sujet de votre mémoire véritablement et le sujet de votre thèse, qu'est-ce qui fait alors qu'une langue qui est si facile, qui a tellement d'avantages, qu'est-ce qui fait qu'elle reste une sorte de choses un peu bizarres pour linguistes farfelus ou on y reviendra pour gauchistes et que finalement malgré tout c'est l'anglais qui s'est imposé pour des tas de choses.
C'est une très bonne question et là donc je pense qu'on va passer à la partie historique parce que c'est l'histoire qui répond à cette question. Donc l'espéranto a été créé en 1887 et a très très bien marché dès ses débuts. C'est vraiment répandu très rapidement. Maintenant, l'espéranto était porté d'idées internationalistes et pacifistes. Ce qui déjà, avec la Première Guerre mondiale, n'a pas été dans les idéologies les plus développées du moment, bien que l'espéranto ait joué un petit rôle, mais un rôle tout de même pendant la Première Guerre mondiale, notamment autour de l'échange de correspondances ou avec des espérantistes qui développaient des ambulances. Mais alors vraiment le contre-coup, c'est le fait que ça soit une langue toujours internationaliste et pacifiste, mais d'autant plus portée par la gauche et qui a été interdite donc. Pendant l'entre-deux-guerres, l'espéranto était surtout très présent, donc le plus numériquement en Allemagne et en URSS, deux pays qui ont interdit l'espéranto pendant les années 30 et pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc après la Seconde Guerre mondiale, le mouvement a dû vraiment se concentrer sur sa reconstruction et l'émergence de l'anglais comme langue mondiale, comme langue globale de toutes les communications a vraiment porté un coup fatal à l'espéranto qui aujourd'hui peine à vraiment être perçue comme une alternative viable à l'anglais pour les communications internationales entre toutes personnes.
Mais donc ça veut dire qu'en fait c'est une langue qui dès le départ a été liée à certaines valeurs. Comme vous dites, elle a été interdite dans certains pays parce que associée à tout ce qui est pensée de gauche, dès l'origine, l'espéranto apportait des valeurs qui étaient les siennes.
Oui, alors, l'espéranto a été créé comme une langue neutre qui ne voulait propager aucune valeur, mais c'était un peu quelque chose d'un peu faux et hypocrite de dire que l'espéranto ne porte aucune valeur alors que l'espéranto a été créé pour résoudre au conflit, pour apporter la paix, d'autant plus en contexte international. Donc rien que par de cette idée de création, l'espéranto a des idées internationalistes et pacifistes. Maintenant, il y a un peu deux groupes qui se sont formés dans le mouvement espérantiste, un groupe vraiment militant à gauche, qui représente de grands diversité des mouvements de gauche et qui voient l'espéranto comme un outil pour propager les idées de gauche, tandis que de l'autre côté, on a un mouvement qui se dit neutre, qui essaye de faire de l'espéranto juste pour faire de l'espéranto, de ne propager aucune autre idée politique, bien que à certains moments, et là ça a évolué au fur et à mesure de l'histoire, de quand même apporter des idées internationalistes et pacifistes. Maintenant, cet internationalisme pacifiste a deux pendants, un pendant de gauche et un pendant neutre que les gauchistes accusent de bourgeois, tandis que les neutres se vantent d'être les seuls vrais espérantistes qui font de l'espéranto pour faire de l'espéranto.
Donc il y a un mouvement espérantiste linguistique et un mouvement espérantiste politique.
Oui, on peut dire ça. On peut dire ça, bien que le mouvement linguistique n'est pas sans politique, parce qu'il cherche à faire reconnaître l'espéranto, ce qui est en soi un acte politique. Mais le mouvement qui développe le plus les côtés politiques, c'est le mouvement de gauche. qui s'organisaient sous différentes factions, mais avec vraiment cette idée centrale que la langue, on ne fait pas la langue pour faire de la, on fait pas l'espéranto pour faire de l'espéranto. L'espéranto est un outil. On a eu des slogans comme d'abord révolutionnaire, puis espérantiste, qui montrent vraiment que l'espéranto n'est pas une priorité. C'est un bon cadre, un bon milieu pour développer des idées, et avec plusieurs autres arguments, par exemple le fait que il y a un besoin d'organisation à l'international des groupements de gauche qui ont besoin de se réunir autour d'une langue commune, une langue qui ne soit pas la langue, donc c'est aussi un argument majoritaire autour des groupes espérantistes de manière générale, que l'espéranto n'est la langue maternelle de personne. Je crois que c'est un point central à montrer. Ce n'est la langue maternelle de personne, et ainsi, c'est une langue que tout le monde apprend, et ainsi tout le monde est sur un pied d'égalité quand on la parle. Personne n'est favorisé par sa langue maternelle, comme on pourrait avoir avec l'anglais ou n'importe quelle autre langue nationale, où ceux qui l'ont comme langue maternelle sont vachement favorisés dans une argumentation, dans tout débat.
Est-ce que c'est justement ce point de départ basé sur une égalité absolue qui a fait de l'espéranto justement un outil de la gauche ou est-ce qu'il y a d'autres éléments historiques qui expliquent ce choix?
Oui, bien sûr, le fait que l'espéranto soit une langue d'égalité entre les nations. C'est également une langue, donc comme j'ai dit, internationaliste et pacifiste. Donc même si tous les groupes de gauche ne sont pas internationalistes et pacifistes, une grande majorité d'entre eux le sont. Et puis il y a ce côté où l'espéranto permet d'avoir des rencontres, permet de propager des idées politiques, et a été une valeur progressiste de manière générale. Et donc on a eu très rapidement beaucoup de groupes de gauche qui se sont intéressés à l'espéranto. Par exemple, à Bruxelles, on a eu cette expérience dont j'ai déjà parlé. C'est une communauté anarchiste qui a fonctionné entre 1904 et 1907, d'abord à Stockel, puis à Watermael-Wafford, donc vraiment ici à Bruxelles, et qui organisait des cours d'espéranto, mais aussi des publications, des pièces de théâtre, et dont les deux organisateurs, même si donc, c'est une communauté anarchiste qui essaye de à nouveau de créer de l'égalité dans la communauté, mais on a quand même des personnes qui organisent plus que d'autres. Les deux organisateurs, Émile Chapelier et Eugène Gaspard Marin, ont participé au Congrès international anarchiste de 1907 à Amsterdam, et ont présenté une publication sur pourquoi l'espéranto profiterait au mouvement anarchiste. Le premier point étant que le mouvement anarchiste a besoin d'une langue pour s'organiser, parce que on perd de l'énergie, donc on n'avait pas de langue internationale à ce moment-là, donc on perdait de l'énergie en traduction, on n'arrivait pas à regrouper tous les militants autour d'une même conversation. Quand on faisait un débat, une présentation, il devait y avoir plusieurs traductions en simultané, donc l'espéranto aurait été une solution là-dedans. Mais également que l'espéranto pouvait servir de moyen pour propager les valeurs de l'anarchisme dans les mouvements espérantistes, tout en étant une langue qui ne favoriserait aucune nation. Donc il y avait des débats sur est-ce que l'anglais devait devenir la langue internationale, est-ce que le français devait devenir la langue internationale, ce qui aurait favorisé à chaque fois une nation par rapport à l'autre, ce qui aurait exacerbé les nationalismes. Évidemment, il y avait d'autres projets. Il y avait des projets, par exemple, d'un nouveau latin ou d'une nouvelle langue germanique qui aurait regroupé toute une famille de langues autour d'une même langue, mais à nouveau, une famille de langues et pas toutes les langues.
Communication, New Year. I found you on the phone, you called me, and you were not haunting me. Learning more and more about less and less and less. On the edge of your seat in some dark movie, can you memorize? Different next week. Can you tell me? Can you tell? Can you tell? If there is something better, 'cause you know it always is. Always is.
Alors quand on regarde l'évolution, je ne veux pas dire l'évolution de l'espéranto parce que je ne pense pas, est-ce que c'est une langue qui évolue d'abord?
Alors les 16 règles de la grammaire sont toujours là, il y a très peu de choses qui ont évolué, mais maintenant il y a des points qui évoluent, par exemple l'espéranto devient une langue inclusive au niveau du genre, ce qui n'était pas le cas avant, on avait « li » pour il, she pour elle et ji pour un objet neutre. Maintenant, on a un nouveau pronom qui se développe chez les jeunes, ri pour yel ou de, qui permet de transformer la langue en une langue plus neutre. Également, j'ai parlé du système de suffixes. Avant, pour exprimer un nom genré, on avait le nom, le radical qui exprimait le masculin et plus in pour exprimer le féminin. Par exemple, patro pour le père, patrino pour la mère, frato pour le frère, fratino pour la sœur. Et à chaque fois, on devait rajouter in pour former le féminin. Ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui, chez une partie du mouvement jeune, c'est que le radical exprime le neutre, patro exprime, signifie un parent, ni plus le père que la mère, et on a patricio pour le père, patrino pour la mère. Ça, c'est une évolution assez récente de l'espéranto, qui n'est pas du tout développée dans tous les milieux, mais qui se développe petit à petit, de plus en plus, et qui est, ma foi, beaucoup mieux acceptée que les pronoms neutres en anglais ou en français.
Et comment est-ce qu'on inclut là-dedans alors des nouveaux mots? Parce que l'espéranto est né fin du 19e, le 20e siècle a été quand même particulièrement fécond en termes de découverte et de création. Donc je suppose qu'il y a dû y avoir des nouveaux mots qui ont été introduits dans la langue, et lesquels et comment et qui décide? Est-ce qu'il y a une sorte de l'académie espérantiste?
Exactement, il y a une académie de l'espéranto. Il y a une académie de l'espéranto qui vient non pas créer des nouveaux mots, mais statuer si les nouveaux mots peuvent être acceptés dans un dictionnaire ou pas. Il y a très peu de différence entre l'usage académique, donc l'usage correct de l'espéranto selon l'académie, et l'usage courant. Maintenant, tout le monde ne vient pas respecter, par exemple, cette académie de l'espéranto n'est pas encore très friande de ce ri et de ces pronoms neutres. Maintenant, l'académie vient statuer sur l'espéranto. Donc le fait que l'espéranto soit une langue de préfixes et de suffixes permet de créer énormément de nouveaux mots. Quand on a besoin, on peut prendre plusieurs radicaux, les mélanger ensemble et créer ainsi un nouveau mot. Et l'académie vient surtout statuer si est-ce que le nouveau mot qui a été introduit ne peut pas déjà être exprimé par les radicaux déjà créés, pour limiter un peu le nombre de radicaux qui puissent exister dans la langue afin que la langue reste facile à apprendre. Maintenant, il y a encore d'autres démarches auprès de l'espéranto pour essayer de la mondialiser, en faire une langue moins européenne, parce que il est vrai que c'est une langue très européenne. D'introduire des nouveaux mots, par exemple, on a le mot olivo pour une olive. J'ai plusieurs amis qui essayent d'introduire le mot zeituno pour l'olive, pour introduire également d'autres langues dans l'espéranto.
Ok. Alors, comment est-ce qu'on fait? Prenons des choses assez récentes. Un GSM, ça donne quoi en espéranto?
Et ça se poche telefono. Poche telefono, un téléphone de poche. On a telefono, mais on peut aussi dire poche telefono pour un GSM ou pour un smartphone. On pourrait dire intelligenta poche telefono.
Voilà, c'est ici que se referme cette histoire de savoir. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Tabata Fabri de m'avoir accordé cette interview. On la retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette discussion autour de l'espéranto. D'ici là, portez-vous toutes et tous très bien. Et bien, une excellente semaine à vous. Au revoir. What, 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 what,
What